Non, mais il faut vraiment qu'il y ait le générique qui commence pour que Marc Menant puisse se taire. Il n'y a que lui qui parle.
Ben, j'en profite, parce qu'au moment de l'antenne...
C'est pas possible.
Moi, c'est avant et après.
Bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure. Simon Guillain qui part au Cap-Vert la semaine prochaine. Je dis tout aux téléspectateurs. Vous êtes en vacances, vous n'avez pas honte?
Mais non, pas du tout. Et c'est, vous savez quoi? C'est pour mieux vous retrouver que je pars une semaine.
Allez, donnez-nous l'info.
Emmanuel Macron s'exprime à 20h ce soir sur le conflit en Ukraine. Une prise de parole qui intervient après les votes favorables de l'Assemblée nationale et du Sénat sur l'accord bilatéral de sécurité entre Paris et Kiev. Le président de la République va notamment évoquer le soutien militaire de la France à l'armée de Volodymyr Zelensky. 4 mois après la mort... du jeune Thomas à Crépol, 3 des 11 suspects interpellés lundi ont été mis en examen aujourd'hui. Ils ont également été placés en détention provisoire, 6 d'entre eux ont été remis en liberté et 2 autres sont toujours en garde à vue. Et puis 6 surveillants de la prison de Réau en Seine-et-Marne ont été présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir fait entrer du cannabis, de l'alcool ou encore des téléphones portables dans l'établissement pénitentiaire. Il s'agit de 3 femmes et de 3 hommes qui ont tous été interpellés hier, a annoncé le procureur de Melun. Chère Christine, excusez-moi pour ce petit problème de voix ce soir.
C'est pas grave, allez boire un petit verre d'eau, je vous en prie. Merci mon cher Simon. Et au sommaire ce soir, la loi sur la laïcité a 20 ans. Demain, nous commémorons cette loi sur le port des signes religieux à l'école. Mais faut-il la supprimer ? 20 ans plus tard, elle semble piétinée, bafouée au quotidien. Et selon le sondage Odoxa, 8 Français sur 10 trouvent que la laïcité est en danger. La laïcité est-elle le fondement de l'identité française aujourd'hui ? L'édito de Mathieu Bock-Côté. À chacun son drapeau, le palestinien, l'ukrainien, mais surtout pas le drapeau tricolore. À Sciences Po, le drapeau palestinien a été hissé. À Nantes, le plus grand escalier de la ville a été repeint avec le drapeau palestinien. À Strasbourg, le drapeau israélien a été retiré de la mairie. Sur le fronton des mairies, on voit plutôt pavoiser les couleurs de l'Ukraine. Que comprendre de cette présence de plus en plus visible en France de ces drapeaux étrangers? Faut-il comprendre que ces pays sont des patries de substitution? Pourquoi préfère-t-on se parer d'autres drapeaux que de celui de la France? L'analyse de Guillaume Bigot. Alors que Louis Boyard a démissionné de la commission d'enquête sur l'attribution de fréquences TNT pour 2025, après 24 heures pour cause de conflit d'intérêts, le député LFI a été au centre de l'audition de Cyril Hanouna cet après-midi. L'animateur producteur parlant de trahison de Nami, qui était chroniqueur de son émission avant d'être député. S'il lui a reproché de ne pas recevoir tous les bords politiques, l'animateur a souligné que LFI refuse de venir après avoir été ultra présent dans son émission. Cyril Hanouna s'est étonné que l'émission Quotidien refuse de recevoir des députés élus du RN, mais que personne ne s'en émeuve. Que retenir de ces 2h30 d'audition? Le regard de Marc Menant. Le consentement devrait apparaître dans la loi pour lutter contre le viol, a annoncé Emmanuel Macron. En clair, les féministes souhaitent que, comme l'Espagne et la Suède, il faudrait que tout acte sexuel non précédé d'un acte spécifique soit d'un accord spécifique et considéré comme un viol. Cela défendra-t-il les femmes? Victimisera-t-il les femmes? Fragilisera-t-il les femmes? Et si ce texte permettrait bien au contraire de requalifier en viol beaucoup de relations? Posons-nous toutes les questions, posons-nous les bonnes questions. Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis alors que Marion Maréchal, qui veut interdire la pub pour le halal, s'est attaqué au maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a annoncé la suspension des travaux dans le quartier de la Guillotière le temps du Ramadan. Alors que la Fédération française de foot refuse de son côté, conformément au texte, une pause pour rompre le jeûne, pourquoi cette période de recueillement spirituel tourne-t-il souvent au rapport de force? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Une heure avec nos mousquetaires. Vous voyez, ce dernier sujet, on n'a pas pu le traiter hier, on n'avait pas beaucoup de temps. Mais ce soir, on le remet dans l'émission. C'est parti. C'est donc l'un des sujets les plus discutés ce soir aussi sur les réseaux sociaux. Cyril Hanouna reçu en commission d'enquête pour l'attribution des fréquences TNT à 2025. C'est intéressant parce que peut-être que cette phrase résume un petit peu tout. Écoutez-le.
Moi, j'accepte tout le monde en République. Parce que c'est, voilà, je donne la parole à tout le monde, c'est le propre de mes émissions. Et on m'a reprocher d'être islamophobe. Voilà, de dire bah, il ne met que des islamistes. J'ai entendu des choses folles. Le lendemain, je reçois Marion Maréchal. On me dit ah ben non, là, il est avec Marion Maréchal. Un autre jour, je vais voir Emmanuel Macron à la sortie du débat entre les deux tours. On me dit ah ben non, il a la botte de Macron. Vous savez, moi, je suis à la botte de personne. Personne ne peut dire pour qui je vote, pour qui je voterai. Et je ne juge jamais les Français dans mes émissions pour qui, sur le vote, sur leur vote. Les Français, je me mets tous les soirs à leur place. Et il y a des Français qui ont de nombreuses difficultés. Et je ne suis pas là pour leur dire, moi, il faut voter pour un tel ou pour un tel. Je suis là pour donner la parole à tout le monde et montrer toutes les forces en présence qui représentent la France.
C'est la question du pluralisme qui est encore une fois posée. La question du pluralisme, c'est on invite tout le monde parce que toutes les familles politiques qui existent sont reconnues, sont légitimes et doivent échanger. Si certains décident de bouder en disant « nous ne voulons pas aller sur ce terrain parce qu'il y a des gens infréquentables au risque d'être contaminés, il y a un effet radioactif, il y a des gens à qui on ne parle pas parce que si on leur parle, on est contaminé, on est empoisonné », ça en dit davantage sur eux que sur la puissance invitante qui cherche justement à multiplier les voix. C'est vrai dans le cas d'Hanouna, c'est vrai dans le cas de combien d'autres situations.
On peut critiquer le côté un peu information, disons, spectaculaire, kermesse,
infotainment.
Bon, ça, c'est des critiques qu'on peut adresser à Cyril Hanouna. Mais effectivement, on ne peut pas lui faire ce reproche de ne pas offrir, dans une France ultra-archipélisée, comme dit Fourquet, quasiment le seul espace, la seule agora, le seul espace où tous les points de vue peuvent se croiser et s'entrechoquer. C'est étonnant. Et dernier point, je pense que Hanouna est vraiment extraordinairement fort lorsqu'il est dans un rôle, finalement, paradoxalement, sérieux. C'est un peu comme les acteurs, souvent. Coluche n'a jamais été aussi bon que dans Ciao Pantin. Eh bien, quand il organisait de vrais débats, des débats politiques sérieux pendant les campagnes, Hanouna, je trouve qu'il était extraordinaire.
Mais en fait, il résume bien le problème. C'est-à-dire que ce qui est reproché en général, ça n'est pas de censurer des gens, c'est d'inviter des personnes qu'on voudrait censurer, que d'autres, que ceux qui reprochent ça, voudraient censurer. Donc c'est le problème du pluralisme ne vient pas des personnes qui sont accusées de manque de pluralisme. C'est systématiquement la même question qui se repose.
Non, mais ce qui était fou, c'est la manière dont certains l'interpellaient. On avait l'impression que Fouquier-Tinville aurait eu des leçons à prendre, qu'il était un peu timoré. La manière dont une députée PS, dont je révélerai le nom tout à l'heure, l'interpelle en lui disant « Changez ! Changez ! Voilà, comme ça vous n'aurez plus d'ennui. »
Eh bien, tout à l'heure, vous aurez la parole justement sur ce sujet. Il a raconté donc qu'il a 5000 heures de direct, que sur les 5000 heures, il trouve que finalement, il parle un peu d'acharnement contre son émission. Il parle d'amende excessive, 3,5 millions d'euros. C'est vrai que c'est du jamais vu. Et puis, on a ressenti aussi des critiques surprenantes sur son salaire. On l'a vu. Alors, pour moi qui travaillais avec Cyril Hanouna sur Balance ton poste, sur Touche pas à mon poste, je peux vous dire que LFI était très présent et j'étais présente sur le plateau des Gilets jaunes lorsque Louis Boyard faisait partie du public et qu'il est venu petit à petit dans l'émission et qu'il a été très valorisé dans l'émission de Cyril Hanouna, comme Raquel Garrido, qui était régulièrement sur son plateau, comme Jean-Luc Mélenchon, qui venait régulièrement sur le plateau. Voilà. Mais on en parlera avec vous dans un instant. Mathieu Bock-Côté. Alors, c'est intéressant, parce que Cyril Hanouna disait qu'il a reçu des femmes voilées, ce qui vous heurte, oui. Mon cher ami. Mmh. Mais, voilà, chacun son style. Et,
moi, je suis laïcaire.
Oui, et justement, on va parler de la laïcité. Et on va célébrer, Mathieu Bock-Côté, demain les 20 ans. De la loi sur le port des signes religieux à l'école. À l'époque, on y a vu une grande victoire. Enfin, la République reprenait ses droits. Mais 20 ans plus tard, où en sommes-nous? Qu'en est-il alors que 8 Français sur 10 jugent la laïcité en péril, sondage Odoxa?
Petit rappel historique élémentaire avant de se conduire justement d'aller à la loi. À quel moment surgit la question du voile islamique dans la société française? 1989. À Creil, on s'en souvient, on s'en souvient peut-être pas, mais il faudrait s'en souvenir. On voit apparaître le phénomène des lycéennes arrivent à l'école avec le voile et ça crée une petite commotion. Donc l'école préférerait ne pas les accueillir, pour le principe de républicain. Lionel Jospin, au fond de lui-même, qui est plutôt de la gauche laïque à sa matière, préférait aussi que ça ne se passe pas, mais décide de se tourner vers le Conseil d'État. Déjà lui, qui quant à lui dit non, il faut les inclure, il faut les accueillir au nom de l'inclusion. Et il y a cette idée, et donc elles sont accueillies, donc la brèche est faite. la brèche est faite. Il va y avoir une pétition importante de plusieurs intellectuels de renom à l'époque pour alerter, hein, pour envoyer le signal. Ce qui se passe là est grave. Parmi ceux-là, Régis Debray, Alain Finkielkraut. Alors, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Le discours dominant consiste à dire « Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est secondaire. » On est dans les années des SOS racisme et ainsi de suite, hein, qui étaient dans les faits une forme... C'était pas une lutte contre le racisme, c'était une lutte contre la nation. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette séquence? Eh bien, on dit « Ne vous inquiétez pas, le voile, c'est anecdotique, c'est secondaire. » Et de toute façon, il finira par passer. Et c'est l'argument de l'époque. Hein. Elles préféreront le blue jean au voile et on oublie qu'elles sont parfaitement capables de porter les deux. Quoi qu'il en soit... On voit peu à peu, en l'espace de quelques années, le voile se diffuser, le voile se répandre, le voile devenir non seulement le signe d'une affirmation d'une spiritualité intérieure. Vous savez, à un moment donné, moi, je suis plus sociologue en la matière que théologien, et j'ai tendance à croire que les gens adoptent des comportements parce que leurs voisins les adoptent aussi. Je crois davantage à l'appel du voisin qu'à l'appel de Dieu. Et en ces matières, qu'est-ce qu'on voit? C'est une pression sociale et sociologique très réelle qui fait en sorte que le commun des mortels se dit, dans certains quartiers, « Ah oui, il faudrait le porter, sinon je risque d'être exclu. » Le voile s'impose de plus en plus. Les profs, les enseignants s'en inquiètent. Ils se voulaient traditionnellement. Le sont-ils encore, c'est autre chose, mais les gardiens de la laïcité. Ils s'en inquiètent, ça prend quelques années. Et en 2004, parce que la situation semble déborder, parce qu'on ne peut plus se fier à chaque établissement, parce qu'il faut avoir une directive claire qui vient de l'État, qui réaffirme un principe fort, il y a cette loi sur le voile 2004 qui proscrit les signes religieux à l'école. Quel ostentatoire! Quel est le principe derrière ça? C'est qu'il faut sanctuariser l'école. Il faut faire en sorte que lorsqu'on arrive à l'école, eh bien, on se délivre, on se désenclave de sa communauté, de sa religion, de son groupe, et qu'on s'y présente, donc délivré des marqueurs communautaires ou religieux, et on se présente sous le signe de la raison, quitte à reprendre son voile en sortant de l'école, quitte à reprendre son signe religieux ostentatoire en sortant de l'école. Il y a cette idée, donc on va sanctuariser l'école et qu'elle aura un effet de percolation culturelle, qu'elle va produire une nouvelle norme culturelle et qu'à force de ne pas porter leur voile à l'école, parce que c'est la question du voile, on s'entend, les jeunes femmes finiront par ne plus le porter à l'extérieur. Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Loin de là, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'une forme de rituel s'est imposée et s'est radicalisée. On arrive à l'école, on enlève le voile s'il le faut. On en sort, on le remet. Et par ailleurs, on a vu aussi des espaces, des stratégies de contournement de la loi sur les signes religieux ostentatoires à l'école. Donc, on l'a vu, par exemple, avec le... Je perds, c'est pas le mot là. Mais oui, à l'époque, c'était ça d'ailleurs. La baya, mais avant ça, c'est le bandana. Oui. C'est-à-dire, on cherchait des symboles alternatifs pour marquer une dissidence communautariste. Donc, j'ai peut-être pas le voile, mais comprenez que je contourne votre loi avec ce symbole que je me mets sur la tête pour vous envoyer le signal que, certes, je respecte officiellement votre loi, mais je n'y adhère pas. Et il y a eu, effectivement, ces dernières années, l'abaya. Et là, les subtils théologiens du progressisme diversitaire nous disaient « Mais ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe ethnoculturel, donc ce n'est pas grave. » Et à certains égards, c'est vrai que ce n'était pas un signe religieux au sens strict. Mais l'intention était la même. C'est une volonté de se désaffilier. Et le voile est devenu, au fil du temps, un symbole de désaffiliation revendiqué à l'école. Un symbole plus largement dans la culture dont on préfère le communautarisme musulman au sens large, je dis avec toutes les nuances nécessaires, plutôt que l'appartenance au code culturel généralement admis de la nation française. Donc c'est devenu un symbole politique, un clivage politique est apparu autour de ça. Je note une chose aussi qui me semble importante. On a constaté au fil du temps que si cette loi était nécessaire, et j'y reviendrai, elle n'a pas vraiment donné les résultats escomptés. Est-ce qu'elle est parvenue à renverser la présence du voile dans nos sociétés en France? Pas vraiment, même pas du tout. Est-ce que c'est parce qu'on lui a trop demandé à cette loi? Ça, c'est peut-être, on y reviendra. Mais il y a quatre facteurs qui, à mon avis, expliquent l'échec, en fait, de la loi. Par échec, je ne veux pas dire qu'elle a complètement échoué. Je ne veux pas dire qu'elle n'a pas produit de bons effets. Oui. Je dis qu'elle n'a pas tenu la promesse à laquelle on l'associait. Il y a question du nombre, d'abord, quoi qu'on en dise. Je suis fasciné par tous ceux qui abolissent la démographie. Quand vous avez une population nombreuse de cultures musulmanes qui arrive et qui ne subit plus la pression démographique et sociologique pour s'assimiler aux mœurs françaises, eh bien les mœurs de l'islam, les mœurs d'origine remontent à la surface. Donc le nombre et le nombre. Deuxième élément, la distance culturelle et civilisationnelle. On a peut-être fini par comprendre, même si on n'en tire pas les conséquences, qu'entre l'islam et le monde occidental, ce n'est pas simplement une différence de degré sur le plan culturel. Ces deux univers sont deux univers mentaux très différents et ce n'est pas manquer de respect envers l'islam que de constater qu'on est devant deux références civilisationnelles distinctes. Il y a la mauvaise conscience française, cette idée qu'imposer sa propre norme n'est-ce pas une forme de néocolonialisme imposé aux populations venues de ce qu'étaient autrefois les territoires de l'Empire. Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, le revanchisme décolonial porté par la mouvance indigéniste ces dernières années, qui a tout fait consciemment pour dynamiter la loi sur les signes religieux ostentatoires, qui a tout fait en fait pour faire tomber la laïcité à l'école.
La laïcité est-elle le fondement de l'identité française aujourd'hui?
Alors, je ne veux pas blesser notre ami Marc, mais je ne crois pas. Est-ce qu'elle a un rôle très important? Assurément. Il ne faut pas oublier d'abord, ça je tiens toujours à le rappeler, c'est important, la laïcité a déjà été capable d'être très militante, très sévère, très dure, très radicale contre une religion. Mais ce n'est pas contre l'islam, c'est contre le catholicisme. C'est-à-dire, la laïcité, dans l'esprit d'une forme de... Vous savez, la Révolution française, une dimension antichrétienne et même plus encore anticatholique qui est rarement avouée, mais qui est quand même fondamentale. Et la laïcité, très militante, a voulu parachever la déconstruction de l'ancrage ou de la matrice catholique dans la civilisation française. Donc, il y a cet élément-là. Et pour ça, on a été prêts à taper sur les catholiques. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, le fait est qu'elle a pris ses marques dans la culture française. Elle a pris ses marques et c'est devenu un symbole identitaire et culturel important. Très important, même. C'est devenu un symbole qui distingue la France dans le monde. Ce n'est pas un détail. C'est devenu aussi un marqueur, un concept politiquement utile. Donc, tu sais, en politique, moi, j'ai une vision assez claire dessus. Il y a certains concepts qui permettent de générer de la force et d'autres qui sont simplement des concepts purement verbaux. Au nom de la laïcité, on peut imposer des normes. Au nom de la laïcité, on peut imposer des règles. Au nom de la laïcité, on peut défendre l'identité française. Mais c'est un peu le drame des dernières années. C'est que la seule manière de parler de l'identité française, c'était par la laïcité. La laïcité était la seule expression légitime de l'identité française. À la rigueur, la République aussi. Ce qui fait qu'on a des formules comme « atteinte à la laïcité » et « tenue républicaine ». Mais le mot « France », quant à lui, disparaissait. On s'en souvient des tenues républicaines. Je sais, c'est quoi une tenue républicaine? La garde républicaine, je comprends. Mais c'est quoi une tenue républicaine à l'école? Je veux dire, c'est sa vie à l'occidentale. C'est un peu loufoque. Et j'ajouterais que, soyons très honnêtes, la culture française, si elle s'épuisait dans la laïcité, elle ne serait pas si intéressante que ça. C'est-à-dire, on touche 1000 fois plus à la culture française en prenant un verre de vin, en prenant une bonne viande, un bon fromage, comme dirait notre communiste préféré, plutôt qu'en répétant 50 fois par jour le mot laïcité. Ensuite, je ne dis pas que la laïcité n'est pas importante, mais elle n'épuise pas l'identité française. Mais elle est, ce qui est une chose qu'il faut dire, elle est beaucoup moins universaliste qu'on ne le croit, à tout le moins moins universelle. La laïcité, en fait, est une expression parmi d'autres, de l'identité culturelle française profonde. Et il faut voir sur quelle base elle est attaquée pour comprendre quelle est sa force. Quand on attaque la laïcité aujourd'hui, on l'attaque beaucoup moins au nom d'une forme de vieux fond catholique qui dirait « restaurant, je ne sais trop quoi ». C'est au nom de la logique diversitaire qui dit « la norme laïque est la norme de la majorité française. Pourquoi cette majorité est-elle en droit d'imposer ses règles à la société française en général ?» Au nom de la diversité, acceptons une laïcité inclusive, et cette laïcité dite inclusive, eh bien, elle doit tolérer tous les symboles religieux dans l'espace public. Et on nous dit que la laïcité telle qu'on la connaît aujourd'hui serait en fait l'expression d'un racisme systémique à la française, parce qu'on dissimulerait derrière l'universel un code culturel particulier que serait la laïcité. Mais moi, je renverse l'argument. C'est tout à fait juste que la laïcité est l'expression d'un particularisme français. Allez aux États-Unis, allez en Belgique, c'est différent, allez en Pologne, allez en Suède, parlez-leur de la laïcité, ils vont dire « pardon ». C'est très, très, très français, la laïcité. Mais c'est ce qui fait sa force, si je peux me permettre. Et la question de savoir si les Français sont encore capables et désireux d'affirmer leur identité chez eux, ça passe par la laïcité, mais ça ne passe pas que par la laïcité.
Posons la question brutalement, dernière question, à la fin du siècle, est-ce que la France sera encore laïque?
Au rythme où vont les choses, non. Ça m'apparaît assez évident, c'est-à-dire qu'il y a une forme de laïcité. Il va rester une laïcité Potemkin, une laïcité d'apparat, une laïcité institutionnelle, une laïcité, on pourrait dire, un peu artificielle. Mais quand vous changez la population, vous changez la culture, vous changez l'identité, et on risque de se retrouver avec une population qui n'aura plus les mœurs et la culture de la laïcité, mais un discours sur la laïcité qui va être de plus en plus ronflant et qui va de moins en moins mordre sur la réalité des choses. Mais il faut poser la question autrement, je crois, plus méchamment, plus brutalement. La question qu'on peut se demander, si dans un siècle, est-ce que la France sera encore française? Ah, c'est plus compliqué. Donc si on demande ça, ça veut dire que ça touche la question de la laïcité, assurément. Mais ça touche aussi le rapport à l'héritage catholique. Ça touche le rapport à la gastronomie française. Ça touche le rapport à la littérature française. Ça touche au rapport entre les sexes, entre les hommes et les femmes. Donc la question de la mixité dans l'espace public. Donc, tout ça dépasse largement la seule question de la laïcité sans l'abolir. Et moi, je suis convaincu d'une chose, on ne peut pas défendre l'une sans défendre tout à la fois les autres composantes de l'identité française. J'ajouterai une chose, un dernier point. Il y a dans la laïcité un certain laïcisme, un esprit anti-religieux acharné qui continue de travailler l'espace public et qui prétend dire on va avoir une transcendance laïque. Mais c'est une transcendance en toc, faut bien être honnête. Et dans l'espèce de qu'on pourrait dire, de vide métaphysique qu'il nôtre aujourd'hui, de vide culturel, le règne de l'individu absolu, la fascination pour le transhumanisme, le rejet des rituels qui permettaient d'accueillir l'existence et de la quitter, la fascination quelquefois pour une forme de nihilisme, peut-être y a-t-il aussi derrière cela une incapacité à assumer un autre héritage culturel en France, qui n'est pas la laïcité, qui est un héritage peut-être un peu plus ancien et qu'on cherche quelquefois à dégommer, même sur les affiches des Jeux olympiques. Quoi qu'il en soit, on peut aimer la laïcité, on peut la chérir tout en disant qu'elle n'épuise pas l'identité française. Dire cela 20 ans après la loi sur la laïcité, ce n'est pas manquer de respect à son égard, c'est la replacer dans son juste contexte.
Merci mon cher Mathieu. C'est demain l'anniversaire, merci beaucoup. En parlant de la laïcité, on voit qu'on perd aussi notre drapeau, l'appropriation de notre drapeau. Et c'en est stupéfiant, et on va en parler avec vous. Alors qu'à Sciences Po, le drapeau palestinien a été hissé et qu'il a été peint à Nantes et que de plus en plus de mairies sont pavoisées aux couleurs de l'Ukraine, vous allez vous interroger, Guillaume Bigot, sur la signification de la présence de plus en plus visible en France de ces deux drapeaux étrangers.
Oui, c'est vrai. Et peut-être commencer par une précision, Christine, et pour nos téléspectateurs, c'est que je ne vais pas parler ni de la cause palestinienne ni de la cause ukrainienne. Ce n'est pas mon sujet ce soir. Leur légitimité, leur illégitimité, c'est pas du tout mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, je vais un peu procéder, un peu comme Montesquieu, qui est comment peut-on être persan, avec un regard un peu comme ça, celui de Mathieu, du sociologue, ou celui d'un anthropologue. Non, mais comment se fait-il que fleurissent ces drapeaux étrangers en France, autant de drapeaux ukrainiens et autant de drapeaux français? D'abord, bon, on va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte
Palestine,
ce soir
Justement, les drapeaux français, on les voit pas trop.
J'ai dit drapeau français?
Oui, mais c'est pas grave.
Eh ben, vous voyez,
vous avez envie
c'est
de les
un
voir,
lapsus qui est très révélateur parce que c'est précisément à la place du drapeau français. Vous allez voir. En fait, des drapeaux ukrainiens et drapeaux palestiniens. D'abord, on voit même sur les réseaux sociaux, des gens sur leur profil qui mettent le drapeau ukrainien ou qui mettent de plus en plus le drapeau palestinien. Ils annoncent un peu la couleur. Des entreprises qui fabriquent des drapeaux disent que de temps en temps, certaines journées, ils vendent beaucoup plus de drapeaux ukrainiens ou de drapeaux palestiniens qu'ils ne vendent de drapeaux français en France. C'est déjà un signe extrêmement étrange. Le drapeau ukrainien, pour commencer. Alors, on va dire que c'est un drapeau peut-être un peu plus mainstream, comme on pourrait dire. C'est un drapeau qu'on trouve dans pas mal de mairies en France. Rouen, Chartres, Le Havre, Cognac, des petites villes aussi, Saint-Paul-de-Léon, des grandes villes, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Paris. Vous allez dans tous ces bâtiments publics. Je suis passé devant le bâtiment de Radio France pour venir ici. Mais il y avait le drapeau de l'Ukraine. Voilà. Le drapeau palestinien, lui, il est peut-être un peu moins officiel, c'est vrai. Il y a des mairies qui ont essayé de pavoiser leur mairie à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, ou dans une petite ville qui s'appelle Molène-Lichane, dans les Pyrénées. Et les préfets ont contacté les maires en disant abaisser ces drapeaux palestiniens parce que ça risque de créer des troubles à l'ordre public. Donc il y a un côté un peu plus sauvage, un peu moins officiel. Il y a des gens, en une nuit, ils ont mis le drapeau palestinien, par exemple, sur la mairie de Cholet. Et vous en parliez dans votre question. Effectivement, à Nantes, on a vu qu'il y a des gens qui ont peint le drapeau palestinien sur des escaliers, sur des façades. On a vu qu'à Sciences Po, ils ont pavoisé un amphi avec le drapeau palestinien, à Bordeaux, sur un pont. Donc, on voit ces drapeaux fleurir un peu partout. Bah, maintenant, de quoi sont-ils le nom, comme dirait l'autre? Moi, je pense que la première explication qui vient, et elle est un peu naïve, mais elle n'est pas pour autant inexacte, c'est que ces drapeaux, pour ceux qui les mettent, symbolisent en fait une sorte de solidarité humanitaire. On est dans le pays de Kouchner, des French Doctors, dans le pays de la SDN. On est aussi dans un pays qui adore, j'ai dit un peu les vaincus, ceux qui ont l'air faibles. C'est l'effet Poulidor, hein, du nom de ce cycliste qui arrivait toujours au numéro 2, pour qui les Français avaient beaucoup de sympathie. Donc là, effectivement, les Palestiniens, ils ont l'air d'être moins équipés militairement que Tsahal, et les Ukrainiens moins équipés que l'armée russe. Mais soyons pas naïfs, c'est quand même un drapeau. À mon avis, ce sont des drapeaux très politiques.
Non, mais on va essayer de comprendre. Est-ce que ce sont des pays de substitution? Essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que le drapeau français disparaît? Pourquoi est-ce qu'on a honte du drapeau français? On va se poser toutes les questions. On marque une pause et on revient tout de suite. Et pardon, juste avant, je voulais vous dire que hashtag face à l'info, je vous dirai dans un instant avec qui j'ai dîné hier soir. Retour de la table. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'info. Je pense avoir commis une grave erreur. Je n'ai pas fait un tour de table après la laïcité. Puisque pendant la pub, je vous le dis, puisque je vous dis toujours tout, ça se disputait très sévèrement autour de la table. Alors, Marc Menant a accusé Mathieu Bock-Côté d'être fossoyeur de la laïcité. Qui a protesté l'accusation. 1905 est une purge. Je vous propose qu'on fasse un tour de table devant les téléspectateurs dans un instant, puisque c'était très très tendu. On va s'expliquer. Revenons sur votre sujet. Ne me regardez pas comme ça. Revenons sur votre sujet. Et sur le fait qu'on disait que les deux drapeaux, sans parler des causes, à la fois le drapeau palestinien, à la fois le drapeau ukrainien, fleurissent un peu partout. Mmh. Et est-ce que ça veut dire que... Qu'est-ce que ça signifie en fait? Y a-t-il une exploitation politique de ces deux drapeaux alors que le drapeau français disparaît un peu?
Oui, je pense que ça donne des sensibilités politiques. On peut presque les opposer terme à terme, ces drapeaux, tissu à tissu, couleur à couleur, en fait. Le drapeau ukrainien, moi, il me fait vraiment penser au drapeau, enfin, à un symbole de l'ordre. C'est le drapeau un peu des notables, c'est le drapeau de l'ordre établi. Et ceux qui le mettent sur leur profil, sur les réseaux sociaux, ça fait penser à ceux qui mettaient, vous savez, vaccinés pendant le Covid. Il y a vraiment l'idée de soutenir l'ordre. Et puis, le drapeau palestinien, c'est à l'inverse. C'est pratiquement des partisans de la révolution, en tout cas des gens qui sont très fâchés contre l'ordre établi et qui veulent le jeter par terre. Il y a le drapeau palestinien, on a l'impression que c'est le drapeau quand même social, on le voit dans les manifestations. C'est évidemment le drapeau de tous les groupuscules gauchistes et de LFI. Et c'est presque le nouveau drapeau rouge. C'est le drapeau un peu de l'égalité, de la décolonisation. Mm-hmm. Terme à terme, le drapeau l'Ukraine, c'est plutôt le drapeau de la liberté, pour ceux qui s'en réclament. C'est plutôt le drapeau de l'Occident. C'est plutôt le drapeau, évidemment, c'est le drapeau de l'Europe. C'est les mêmes couleurs, d'ailleurs. Les Ukrainiens à Euromaïdan avaient brandi le drapeau européen. Donc c'est normal qu'on retrouve ce drapeau dans les meetings de Renaissance. Alors vous allez dire, oui, mais alors, ça veut dire que le drapeau ukrainien, c'est le drapeau de la droite, le drapeau palestinien, c'est le drapeau de la gauche. Non, c'est un peu aller vite en besogne. Soyons plus subtils. On voit bien qu'il y a une gauche qui n'adhère pas du tout au drapeau palestinien et qui... brandit le drapeau palestinien, brandit le drapeau ukrainien, excusez-moi. Place publique, Glucksmann, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, etc. Donc ces gens-là, ils sont tout à fait pour l'Ukraine et ils n'ont pas l'air d'être très fans du drapeau palestinien et de la cause palestinienne. Alain, il y a aussi des gens de droite, très à droite, RN, Reconquête. C'est pas qu'ils rejettent le drapeau ukrainien, c'est qu'ils ne les mettent pas vraiment en avant. Et ils ne mettent pas non plus en avant le drapeau palestinien. Donc c'est plus compliqué que ça. On peut dire, que, à mon avis, sans trop se tromper, que le drapeau ukrainien, c'est indiscutablement une bannière de l'extrême gauche en France, ça c'est sûr. Et à l'inverse, le drapeau ukrainien, c'est sûr et certain que c'est la bannière, disons, du centre et de la droite molle, ça c'est sûr et certain. Donc je pense que ça exprime, en fait... Dans les deux cas, un attachement à une mondialisation pour le drapeau ukrainien et à une sorte d'alter-mondialisation pour le drapeau palestinien. Mais surtout, je crois que les gens qui brandissent ces drapeaux, je ne vais pas dire que ce sont des idiots utiles, ça serait un peu violent, mais ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a des causes qui les manipulent et des idéologies qui les manipulent.
Alors, qu'est-ce que vous pensez comme idéologie derrière ces deux drapeaux? Qu'est-ce que vous trouvez comme idéologie?
Le drapeau palestinien, ils ont l'impression de défendre la nation palestinienne ou l'indépendance palestinienne. Ils ont l'impression de défendre l'internationalisme et la solidarité entre les peuples. Et en réalité, il y a le drapeau du Hamas, bien sûr. Il y a le drapeau de l'islamisme. Du côté de l'Ukraine, ils ont l'impression de défendre un monde dans lequel les nationalismes vilains ont disparu. C'est « embrassons-nous Folleville » à la Ursula von der Leyen. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de nation. Et en fait, c'est quand même le drapeau du nationalisme ukrainien. Je ne dis pas que le drapeau de l'Ukraine, c'est forcément le drapeau du régiment Azov. Mais si on va du côté du front en Ukraine, ils ne se battent pas pour le drapeau européen. C'est un mythe. Ils se battent évidemment pour un nationalisme incandescent, fratricide contre le nationalisme russe. Il y a même une dimension religieuse là-dedans. Deuxième dimension de dévoilement, au-delà de ces idéologies que cachent ces drapeaux, bien sûr qu'il y a des intérêts. Il faut être complètement naïf pour ne pas voir que derrière la cause ukrainienne se cachent, bien sûr, les États-Unis, se cache l'OTAN. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Pourquoi l'Australie? Pourquoi la Corée et le Japon défendent l'Ukraine à bloc? Et pourquoi l'Indonésie ne défend pas l'Ukraine à bloc? Le Brésil ne défend pas l'Ukraine à bloc? Bien sûr, parce qu'il y a l'adhésion au bloc américain. De la même façon, le drapeau palestinien et ce qui s'est passé le 7 octobre, même si ce n'est pas directement la Russie, la Chine, l'Iran en tirent parti. Donc je pense qu'on a vraiment deux deux blocs géopolitiques qui s'affrontent à travers ces drapeaux, en réalité.
Et la France dans tout ça, où est l'intérêt de la France dans ces deux causes?
Je vais être très clair, nulle part, Christine. Nulle part. Et c'est tout le problème. Je pense qu'on peut à la fois parler d'une manipulation avec cette espèce de patriotisme substitution, parce qu'il croit défendre toutes sortes de choses. Il croit défendre la mondialisation, il croit défendre l'altermondialisation, il croit défendre le droit des gens, il croit défendre une cause humanitaire, etc., ou même des causes nationales. Et en fait, il se retrouve pour les uns à défendre le dollar et pour les autres à défendre l'impérialisme russo-chinois. Bon, mais je pense qu'on peut surtout parler d'une sorte d'aliénation. C'est-à-dire que ceux qui brandissent ces drapeaux, ils ont l'air de complètement être en solidarité avec, d'un côté, des combattants nationalistes ukrainiens qui perdent leur vie pour leur drapeau, pour leur terre, de l'autre côté, des terroristes qui sont prêts à se faire sauter, à mourir pour défendre leur idée de la Palestine. Et en fait, alors qu'ils sont en solidarité avec cette espèce d'ultranationalisme, eux-mêmes ne sont, à mon avis, pas du tout prêts à mourir pour la France, parce que ces deux drapeaux sont justement, me semble-t-il, les drapeaux de ceux qui renoncent finalement à la France. C'est le drapeau des bobos euromondialistes, le drapeau de l'Ukraine. C'est donc une patrie de substitution. Le drapeau palestinien, c'est le drapeau des bobos altermondialistes, hein, et aussi le drapeau des militants islamistes. Donc on est dans un patriotisme par procuration, comme une sorte de proxy idéologique, et dans un patriotisme de substitution. Et je pense que c'est vraiment très 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 étonnant comme mécanisme. On peut presque parler d'aliénation.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour votre regard. Marc Menon, on fait d'abord votre chronique et ensuite on fait un tour de table sur la
c'est
laïcité.
Vous qui décidez, puisque vous êtes la patronne ici.
Non, on fait ce qu'on veut, comme vous voulez. Sinon, vous décidez aussi, vous êtes avec nous. Prenez l'apéro, hein. C'est pas encore l'heure du dîner, pas d'alcool. Non, parce que c'est interdit de le dire à la télé, c'est juste pour
ah
ça.
Bon
ah oui, oui, sinon il faut dire.
Eh bien oui, et alors.
Bon, Marc Menon, venons-en donc à cette audition, oui à cette audition de Cyril Hanouna par la commission d'enquête cet après-midi. Vous, il y a une partie qui vous a choqué, qui vous a interpellé. C'était quoi?
Déjà, la première chose qui m'offusque, qui me met mal à l'aise, c'est le fait de voir un présentateur de télévision devant une commission pour rendre compte de sa fonction. J'imaginais pas qu'un jour, moi qui ai toujours rêvé de liberté, moi qui me suis imprégné des grands principes, disons la France, elle est l'exemple même de la capacité intellectuelle et du rayonnement de l'esprit. Eh bien, soudain, on a une commission. On convoque un présentateur pour lui dire « Alors maintenant, vous allez vous expliquer. » J'ai trouvé plutôt bonhomme. Il dit « Bah écoutez, c'est presque un honneur d'être ici. Je ne prends pas ça pour un procès. » Bon, quand le président prend la parole, on peut dire qu'effectivement, il y a un côté presque amical quand un bataillon s'exprime avec une certaine déférence. Mais alors après, vous avez Aurélien Saint-Toul. Aurélien Saint-Toul, c'est le rapporteur. Et là, je me suis dit, Fouquier-Tinville, je dis tellement lu sur ce personnage, je me suis dit, c'était un timide, c'était un boy scout de la justice, c'est incroyable. Il l'attaque tout de suite sur un ton cinglant, et alors plusieurs fois d'ailleurs, durant les 2h30 de l'audition, on s'apercevra que M. Saint-Toul ne s'intéresse pas du tout à ce que répond Cyril Hanouna. Il est sur son portable. C'est quand même incroyable. Et alors, que peut-on reprocher à M. Hanouna? Il essaie de se justifier. Il y a eu l'extrait tout à l'heure. Oui, il reçoit toutes les tendances. Il dit « J'ai participé sans doute à la montée de LFI parce que j'ai reçu souvent M. Mélenchon, j'ai reçu M. David Guiraud, j'ai reçu Rachid Garrido, Alexis Corbière, Louis Boyard. » Je vais revenir...
Rachid Garrido.
Voilà, pardon. Je vais revenir
pas
dans...
Rachid.
Pardon. Je vais revenir dans un instant sur Boyard.
Oui.
Mais ce qui est extraordinaire, il dit aussi « J'ai reçu Zemmour ». Bah pourquoi j'ai reçu Zemmour? Parce qu'à un moment donné, c'était le personnage dont on parlait. Et mon émission, parce que c'est ça l'extraordinaire. Son émission n'est pas une émission de dialogue politique. C'est une émission de divertissement. Il rappelle d'ailleurs son cheminement. D'abord, c'était sur le service public, sur France 4, ça ne marchait pas. Il a cherché à comprendre où se situait le public. Il voulait toucher le public, et s'est aperçu que les gens, même au moment de la détente le soir, avaient un intérêt pour l'actualité et on pouvait y inclure la politique. Cette politique qu'il boudait en allant aux urnes, c'est en n'allant pas aux urnes. Donc il s'est dit, il y a quelque chose là, il a répondu
à une attente. Alors que peut-on reprocher à Cyril Hanouna? C'est son style. Alors on va créer quoi? Une école du bon présentateur avec un uniforme, un petit chapeau, la cravate, pas la cravate. D'ailleurs, il a subi une amende parce que apparemment, il n'avait pas fait attention qu'il y avait des sigles. Il ne met pas tous les jours le même costume. Bon, apparemment, ou alors il touche beaucoup de maisons. Sinon, il les met en concurrence en ayant un différent tous les soirs. Toujours est-il, il a eu une amende de 300 000 ou 500 000 euros rien que pour ça.
Pour publicité clandestine.
Voilà, publicité clandestine. Mais que peut-on donc reprocher? C'est son style. C'est quoi son style? C'est un côté style potache. Oui, ça peut m'offusquer, moi aussi. Quand je dis offusquer, ne pas être concerné par cela. Mais c'est son droit. Ardisson avait un autre style. Il interpellait l'ancien Premier ministre en lui disant « Est-ce que tu as déjà sucé ?» C'est quand même incroyable. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est devenu viral. C'est pour dire. Il y a eu de Chavannes aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hommes politiques ont compris que dans l'institution, dans quelque chose de trop guindé, ils ne pouvaient pas être entendus. Alors, Cyril Hanouna essaie d'expliquer tout ça avec, je dirais, beaucoup de pertinence. Il dit « Je suis moi-même, je n'ai pas de prétention, je veux simplement faire en sorte que le public, ce soir, il m'interpelle dans la rue, il me dit « Ah, ça nous détend, on a l'impression de réfléchir et de nous apporter... » Bon, très bien, personne en plus n'oblige de regarder Hanouna. Alors après, on va prendre l'affaire sur Louis Boyard. Louis Boyard était l'un de ceux qui participaient souvent à son émission. Il dit « Je pense que j'ai beaucoup concouru à cela. » Et là, il fait part de l'échange qu'il a eu le soir de l'élection avec Boyard qui lui dit « Ça y est, j'ai réussi, etc. On va pouvoir prendre des coups ensemble. » Et il rapporte ça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, vous avez un membre de la commission, donc de les Insoumis, David Guiraud,
qui sur le plateau de Cyril Hanouna.
Voilà. Très souvent, et soudain, qu'il interpelle en vociférant, en disant « Mais attention, monsieur, je crois qu'il est difficile de faire des émissions sur le harcèlement, le harcèlement à l'école. » Il l'a fait plusieurs fois, Hanouna. « Parce que quand on emploie des méthodes dignes du harcèlement, » et là, il fait allusion à cet échange qui a eu lieu, et il dit « Attends, vous êtes contre la loi, vous n'avez pas le droit de faire état d'un échange de téléphone sur devant la commission. » Et puis après, le dernier point, parce que je sens que vous impatientez.
Deux choses. La première, c'est sur la phrase d'Ardisson. Pardon, ça me choque parce qu'on ne dit pas trop ça à l'antenne, même si évidemment, c'est Ardisson que vous avez repris, mais moi, j'aime pas ce qu'on dit.
Moi non plus.
Oui, mais on reprend pas. Deuxième chose, si vous permettez, pardonnez-moi, mon cher Marc, juste un petit extrait peut-être de justement ce que vous dites. Lorsque Cyril Hanouna a parlé de Louis Boyard, il a dit que, parce que c'est vrai, quand j'étais sur son plateau, j'ai vu Louis Boyard grandir et j'ai vu aussi Raquel Garrido. Les deux sont devenus députés. C'est intéressant. Écoutons Cyril Hanouna.
Louis Boyard, 3,5 millions d'amende. Sur l'affaire Louis Boyard, moi, j'ai reçu de nombreux députés sur mon plateau. D'ailleurs, il y en a ici qui sont déjà venus sur mon plateau et qui s'est très bien passé. J'ai jamais eu de problème avec aucun député, avec aucun invité. Le seul avec qui j'ai eu des problèmes, c'est Louis Boyard. Louis Boyard, c'est un cas un petit peu particulier parce que Louis Boyard, c'est avant tout un chroniqueur. Et je pense que s'il a été élu, je ne veux pas nous jeter des fleurs à TPMP, à moi, mais je pense qu'on y est pour quelque chose. Parce qu'on lui a donné une visibilité incroyable.
Et je vais aussi vous faire écouter, c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit, une partie que j'ai trouvée personnellement assez touchante, que je ne connaissais pas, de la part de la famille de Cyril Hanouna, et qui vient de la Tunisie. Et je vous propose d'écouter ces quelques secondes et je vous donne le mot de la fin sur cette chronique.
Vous savez, moi, mes parents, ils aiment profondément la France. Ils aiment les Français. Les Français leur ont donné une chance incroyable. Mon père, il venait de Tunisie, il n'avait rien, je vous le dis. Mes parents ont dormi, il leur arrivait de dormir sur un banc. Et mon père, aujourd'hui, il a la reconnaissance de la France, il a la reconnaissance des Français, qui ont fait qu'aujourd'hui, grâce à lui, je peux être l'homme que je suis aujourd'hui, et c'est grâce aux Français. Donc tous les jours, sachez-le, je mouille la chemise, et il y a des sujets dans l'émission. Oui, je suis aussi je suis un père de famille, je suis un homme, et il y a des sujets qui me rendent fou. dans l'émission parce que j'aime la France et parfois il y a des sujets qui me font de la peine.
En plus, c'était touchant parce qu'il a dit « Ma maman travaillait à l'usine pour que mon père puisse faire ses études de médecine ». Prenons quand même les derniers propos. Sophie Taillé-Polion du PS qui dit, qui l'interpelle comme ça, qui dit « Changez, monsieur, changez et vous n'aurez plus d'ennui ». Et c'est tout juste, il ne lui donne pas un cours de présentation pour un présentateur qui serait acceptable. Et puis après, cette obsession, c'est Bolloré qui vous gouverne, c'est Bolloré qui vous gouverne. Moi, ça m'a sauté aux yeux parce que ça veut dire que Bolloré, il appelle Christine Kelly, il appelle Pro, il appelle tous les journalistes.
J'aimerais bien qu'il m'appelle.
Non, mais non, vous rendez compte, c'est-à-dire que Bolloré, il est partout. C'est l'homme qui susurre, non pas à l'oreille des chevaux, mais il susurre à l'oreille de tous ses employés.
Alors, je vais vous faire écouter un son que je ne vous ai pas fait écouter hier, mais écoutez ce que dit Vincent Bolloré justement sur ce que vous dites. Je ne savais pas que vous l'auriez évoqué.
Et depuis le bicentenaire, j'ai laissé ma place opérationnelle à mes successeurs, qui dirigent admirablement, puisque depuis que je suis parti, ça marche encore mieux. Donc je me réjouis d'avoir nommé les bonnes personnes aux bons endroits. Vous savez, je ne réponds à aucun journaliste. Ça fait 10 ans. Mais comme vous me convoquez, que je suis obligé de venir, parce que sinon les gens viennent me chercher pour m'amener ici de toute façon, ça donne une... C'est comme si j'étais important. Vous voyez, je ne suis plus rien dans ce groupe aujourd'hui. Voilà. Alors c'est vrai, je suis actionnaire ultime, puisque mes actions ont été données, mais j'ai gardé les droits de vote, parce qu'on ne sait jamais. Bon. Mais je ne suis plus rien, je ne devrais pas être là.
Voilà, c'était intéressant de rappeler qu'il n'est pas là, il n'est plus aux commandes, il a laissé toutes les commandes, mais c'est lui qui a été convoqué, et pas ceux qui sont aux commandes des autres patrons de la TNT. Et je voulais juste dire que c'était intéressant aussi, une petite parenthèse des temps de parole qu'a donné Cyril Hanouna, le top 5 des temps de parole des politiques sur son plateau en 2022, Renaissance 5 heures, LFI 4 heures, RN 3h49, LR 2h37, Reconquête 2h26. Donc LFI était quand même juste après Renaissance. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette audition qui a beaucoup choqué en tout cas sur les réseaux sociaux. Et chacun son avis, chacun son regard sur ce genre de sujet. Charlotte Dornelas, non. Avant vous, un tour d'adage chez la laïcité. Parce que, non, mais parce que ça a tremblé de tous les côtés. Prenons quelques instants. On se disait tout à l'heure que demain, ce sont les 20 ans de la laïcité. Vous nous disiez, Mathieu Bock-Côté, qu'on sent que la laïcité est en train de disparaître sous nos pieds, qu'elle ne sert quasiment plus à rien. Si j'ai bien compris. Attends.
Ça fasse avec les autres dimensions de la culture française. Voilà. Et je m'en désole.
Et Marc Menon vous a critiqué... Pendant la publicité, je l'ai dit devant tout le monde, il vous a dit que vous êtes un fossoyeur de la laïcité.
Je m'en suis défendu immédiatement.
Alors,
ça se réglera au point plus tard.
Non, mais concrètement, votre regard.
Non, concrètement, non. C'est la voûte. La laïcité, c'est la voûte de la République. Il n'y a pas de République sans la laïcité. Nous excluons les religions de la rue. On fait en sorte que chacun puisse croire dans sa légitimité, dans la profondeur de sa foi, mais qu'en revanche, on ait l'espace où les uns et les autres vont.
Vous comprenez quand même que ça reste un vœu pieux. Aujourd'hui.
Oui. Pieux, en l'occurrence.
Non, mais c'est vrai. Non, mais regardez, on parlait justement de Francfort, etc. On ne voit pas tellement de différence.
Eh bien, c'est pour ça. Donc, on n'a pas su maintenir notre clé de voûte. C'est pour ça qu'il n'y a plus de République. C'est pour ça que le wokisme l'emporte partout.
Ma Charlotte.
Non, mais déjà, Marc dit que c'est la clé de voûte de la République et Mathieu contestait que ce soit le socle de la France. Et c'est deux choses assez différentes, en l'occurrence. Non, si c'était la clé de voûte de la France, qu'est-ce qu'on fait de tous les grands Français qui ont précédé même la Révolution française? Jeanne d'Arc ne serait pas française. Mais moi, personnellement, là, je ne vais pas m'en remettre.
Non, je parle de la République.
De la République, mais ce n'est pas ce que disait Mathieu tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je notais la distinction. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, il y a deux manières. Initialement, la promesse de la laïcité n'était précisément pas d'expurger de la rue, c'est-à-dire de la société, tout ce qui était religieux, mais simplement de dissocier les choses spirituelles, les décisions spirituelles, les autorités spirituelles, des autorités temporelles. Cette différence, en France, elle n'a pas attendu la Révolution française. Il n'y a qu'à voir les batailles entre les rois et les papes pour voir que la guerre du pouvoir précédait ça. Simplement, en effet, jusqu'en 1905, et c'est pour ça que Mathieu disait que ça a été extrêmement agressif et anticatholique dans une mesure, c'est que 1905, l'histoire qui précède la loi de 1905, donc qui concernait les écoles, les hôpitaux et l'expulsion de dizaines de milliers de religieux français hors de France, c'était d'expurger la religion de la société, d'écrire christianiser la société pour que la République ne soit plus que laïque et n'ait plus toute cette vieille culture française et en l'occurrence catholique. Donc c'est bien une guerre qui a existé en France et sur laquelle les Français se sont battus.
On reprendra le débat, je vous inviterai à dîner.
Ah, moi j'accepte toutes les invitations. Et nous mangerons, nous boirons.
Oui, avec Marc Menon, c'est que de l'eau. Et des graines.
Non mais moi je suis tolérant.
On continuera à parler de tout ça une autre fois. On n'a pas beaucoup de temps, les petits chouchous. Très intéressant, Charlotte, on va parler d'un autre sujet. Puisque le président de la République a affirmé à des féministes qu'il était favorable à l'inscription du consentement dans la loi pour lutter contre le viol. Qu'est-ce que cela voudra dire concrètement? Et ensuite, on ira plus loin.
Oui, alors c'est vrai que la déclaration, elle date du 8 mars. Hein, c'est dans sa grande offensive sociétale, comme on dit désormais. Il a rencontré des féministes en marge du scellement de la cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution. Et il leur a dit, oui, je ne suis pas contre, en effet, l'inscription du consentement dans la loi, comme si c'était finalement une formalité. Et en effet, quand on entend la phrase et quand on n'a pas suivi les débats qui animent les milieux féministes depuis quelques années, on se dit que le consentement soit nécessaire dans la relation sexuelle, ça paraît une telle évidence qu'on ne comprend pas très bien quel est le débat et pourquoi il faudrait l'inscrire dans la loi.
C'est ça.
En l'occurrence, la mesure n'aiderait pas, comme j'entends partout, à lutter contre le viol, puisqu'elle interviendrait après le viol. Pour lutter contre le viol, c'est d'autres outils, en l'occurrence, qu'il faudrait utiliser. Elle permettrait de modifier, en l'occurrence, le code pénal et réprimerait, et donc la répression éventuellement du viol par voie de justice. Je dis éventuellement parce que vous allez voir que c'est compliqué quand même. Aujourd'hui, le code pénal prévoit, je le cite, que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Donc la notion du consentement n'est pas explicitement écrite dans la définition, on va dire, du viol que nous avons dans le code pénal. Et là, en l'occurrence, on parle de situation où la femme ne consent pas explicitement, bien que la situation puisse le laisser penser. C'est pas le viol qu'il y a tous dans notre imaginaire, c'est pas le viol de Cologne, enfin les viols collectifs à Cologne, c'est pas le viol des personnes âgées dont nous avons parlé récemment, c'est pas le viol d'une jeune fille qui rentre chez elle dans une ruelle le soir. Celle-là est absolument claire dans la loi aujourd'hui. C'est celle où, en effet, on ne peut pas parler ni de violence, ni de contrainte, ni de menace, ni de surprise. C'est très particulier déjà. Alors on a eu le cas, le consentement, on en a beaucoup parlé pour les enfants. Pour les adolescentes en l'occurrence ces derniers temps, la loi est venue dire qu'en dessous de 15 ans, un enfant n'était pas capable de consentir, parce que le consentement, ça se passe dans la tête. Hein. C'est différent du désir même sexuel exprimé par le corps. Donc un enfant n'était pas capable de consentir à quoi que ce soit et que l'adulte avait une telle préséance sur lui, évidemment que ça n'était pas possible. Mais la question, elle se pose là, en l'occurrence, entre adultes et le constat qui nécessiterait, on va dire, l'inscription du consentement dans la loi, c'est que la réponse de la justice aujourd'hui est trop faible par rapport au nombre de viols. C'est-à-dire la répression du viol est trop faible. En effet, on a un très petit nombre de dossiers de plaintes qui aboutissent à une condamnation. Mais qu'est-ce que changerait l'inscription du consentement dans le code pénal? Et la question qui se pose derrière, et le vrai débat, c'est à qui il reviendra devant un tribunal d'apporter la preuve. Aujourd'hui, ça n'est pas à l'accusé. C'est toujours, vous savez, quand il y a une accusation, quand quelqu'un est accusé, il faut prouver qu'il a fait quelque chose de mal. Et là, plusieurs pays, en effet, vous avez cité, notamment la Suède et l'Espagne, et il y a une discussion européenne en cours sur une définition européenne du viol par ailleurs, ont inscrit la définition du viol comme étant une atteinte sexuelle sans consentement explicite. Mais alors, qu'est-ce qu'un consentement explicite ? Et là, on a Clémence Pajot, qui est directrice de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes, qui est une des premières à s'être félicitée de cette promesse d'Emmanuel Macron, qui explique, je vais la citer, on m'accusera pas de leur faire dire des choses qu'elles n'ont pas dit. Elle ne veut pas que ce soit, ouvrez les guillemets, que ce soit à la victime de démontrer l'absence de consentement, mais à l'accusé d'être chargé de montrer qu'il s'est assuré du consentement libre, éclairé et continu de la plaignante. Alors, le consentement libre et éclairé, donc de manière explicite, il est très clair dans cette phrase que devant le tribunal, si un homme, ou même une femme, imaginons, est accusé de viol, elle devra apporter la preuve. Une preuve, c'est matériel devant la justice. Donc, quand on dit concrètement, c'est quoi un consentement explicite? Est-ce qu'il faut faire signer quelque chose? Est-ce qu'il faut enregistrer? Mais si vous faites signer et enregistrer, à quel moment vous prouvez que le consentement était continu? Moi, en fait, avec cette phrase, je vois pas comment vous pouvez vous en sortir. En fait, vous pouvez vous sortir d'une accusation, d'une seule accusation, parce que vous ne pourrez jamais apporter la preuve, en réalité, de... puisque là, c'est clairement une inversion de la charge de la preuve. Dans la justice française, ça n'existe pas. Hein. Je le signifie quand même, c'est un peu un basculement. Et par ailleurs, je ne vois pas comment ce sera possible de le prouver et comment on n'en reviendra pas à une question de parole contre parole qui, certes, parfois est absolument atroce pour les victimes. C'est vrai, mais comment la justice peut-elle procéder autrement ? La question reste entière. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux a exprimé sa crainte. Il a parlé d'un risque de contractualisation des relations et de judiciarisation également des relations. Bon, la crainte est déjà existante de manière générale dans la société, mais là, si ça s'invite dans les relations intimes, ça fait peser une lourdeur atroce, mais surtout même sur l'altérité tout court, hein, même sans aller sur le terrain du viol.
D'un autre côté, la faible réponse pénale est une réalité qui n'est pas satisfaisante non plus, dont elle n'a pas raison de s'en offusquer finalement.
Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit les chiffres, on se dit, mais c'est pas possible, comment aussi peu ? Parce que dans la tête de tout le monde, c'est comment aussi peu de violeurs sont condamnés. La réalité, c'est précisément que s'il y a si peu de condamnations, c'est que la justice ne parvient pas à, dans beaucoup de cas, ne parvient pas à être sûre que l'accusé qui est en face d'elle est le violeur ou est un violeur. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas condamnés. C'est pas on les a reconnus comme violeurs et ils ne sont pas condamnés, c'est qu'on ne parvient pas à le faire. Pourquoi ? D'abord, il y a assez peu de plaintes, et on le dit, et là, pour le coup, cette question de la libération de la parole pour des femmes qui sont violées, notamment dans les termes qui sont admis par tout le monde, aujourd'hui, les pousser à se libérer, on va dire, de cette souffrance-là, par le fait d'aller porter plainte devant des policiers et donc de convoquer la justice, est une bonne chose. Il y a aujourd'hui peu de plaintes, il y a peu de femmes qui réussissent à en parler. Ensuite, il y a les difficultés à rassembler des preuves, d'autant plus fortes que quand vous avez du mal à parler avec le traumatisme d'un viol, vous avez du mal à parler, vous mettez du temps, et les preuves dans un viol, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on comprend bien qu'avec le temps, vous avez encore moins de chances d'avoir ces preuves-là, encore moins de chances, oui, devant la justice, d'avoir des preuves. Donc ce n'est pas une mauvaise volonté. On a vu tous des histoires où les policiers accueillaient mal cette parole-là, où la justice ne la prenait pas assez en charge. Ces dernières années, énormément de progrès ont été faits là-dessus. Donc ça n'est pas ça le sujet. Il ne faut pas s'imaginer que la justice identifie des violeurs qu'elle ne condamne pas. Ce n'est pas ça, en l'occurrence. La question aujourd'hui. Et la violence, la contrainte, la menace ou la surprise signifie par ailleurs déjà pour la justice, évidemment, une absence de consentement. Quand vous êtes violé, tout le monde part du principe que précisément, il n'y a pas de consentement. Donc si la contrainte, je ne prends même pas la menace, la violence ou la surprise, si la contrainte, qui est déjà une notion très large, n'est pas suffisante devant un tribunal pour expliquer l'absence de consentement, faut-il donc que ce soit enregistré ou écrit ? On me dit non, c'est pas du tout pour contractualiser les relations. Moi, je demande concrètement, devant un tribunal, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire d'inscrire ce consentement ? Et comment est-ce qu'on voudrait que ce soit efficace devant un tribunal ? Il y a un moment, il faudra répondre concrètement à cette question. Et peut-être qu'il est... dans ces affaires, donc je disais, dans ces histoires de viol que l'on voit apparaître et qui vont sur ce terrain du consentement, c'est pas qu'il y a les quatre éléments, donc je vous disais, dans le code pénal, mais une absence de consentement au moment M qui n'est pas forcément exprimée, parce qu'on a eu ces histoires-là. Donc, il y a une question qui demeure toujours devant les tribunaux. Si l'une des personnes ressent le viol et que l'autre ne l'imagine pas une seconde, comment vous gérez ça devant un tribunal ? Donc peut-être que c'est infiniment plus une question d'éducation et d'éducation des deux, hein, si je puis me permettre, d'éducation des garçons comme des filles qu'il faut se poser, plutôt qu'une judiciarisation qui viendrait condamner, soi-disant, une culture du viol, soit par des promesses qui seront décevantes devant un tribunal, ou alors, si elles ne sont pas décevantes, elles seront terrifiantes. Je pense qu'il vaut mieux prôner une société ou espérer une société où il y aurait plus de respect entre les hommes et les femmes par l'éducation et donc par l'adhésion plutôt que par la terreur de se voir traîner devant un tribunal.
Je vais vous poser une dernière question, si vous pouvez en quelques secondes, mais je tiens quand même à cette question. Est-ce que ces féministes y réclament aussi cette éducation sexuelle contre ce qu'elles appellent depuis des années la culture du viol en Occident et particulièrement en France ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, elles disent qu'il faudrait aussi une éducation contre cette culture. Je pense l'exact contraire. Je vais m'expliquer en quelques secondes. Elles s'imaginent que l'homme est donc naturellement bon et que cette culture du viol instauré en France, en l'occurrence, mais en Occident plus largement, le corromprait. Et donc, c'est une culture, en l'occurrence, qu'il faudrait abattre. Mais sur le terrain sexuel en particulier, l'homme très naturellement a des pulsions. Je ne vais pas reprendre la phrase « un homme, ça s'empêche » que l'on reprend partout. Mais c'est précisément par l'éducation et par la prise en compte de l'autre, de l'altérité et donc potentiellement de son consentement, pour faire plus large, mais tout simplement de son existence dans la relation affective, dans la relation tout court, dans la relation affective, puis dans la relation sexuelle. Et qu'a-t-on fait l'inverse ? Parce que ces filles-là, ces féministes-là, sont les filles de celles qui ont voulu une révolution sexuelle totale, dont le premier slogan était « jouir sans entrave ». Pardon, dans la relation sexuelle, l'autre est une entrave, et une entrave de taille. C'est peut-être sur ce terrain-là qu'il faudrait réfléchir au respect de soi-même d'abord, de l'autre, et de l'altérité dans la relation affective et sexuelle. Et là, c'est une révolution un peu plus ambitieuse, à mon avis, que d'inscrire un mot dans le code pénal et de... Voilà, de...
Merci pour votre regard, Charlotte. Qui m'a invité à dîner hier soir ? C'est Mathieu Bock-Côté. Et Charlotte, donnez-moi l'adresse de votre oreille hors antenne, parce que vous êtes merveilleuse et magnifique ce soir. Dans un instant, Emmanuel Macron qui va parler de l'Ukraine, que vous pourrez suivre sur CNews. Mais dernière partie très importante, Mathieu Bock-Côté, Le Figaro nous apprenait avant-hier que la ville de Lyon interrompt pas ses travaux dans le quartier de la Guillotière pendant le Ramadan pour ne pas causer de soucis, notamment au marché du Ramadan. Marion Maréchal a dénoncé cette décision et désormais la polémique est lancée. Qu'est-ce que cache cette polémique ?
Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a le maire de Lyon, qui est un maire écologiste, il faut le rappeler, qui dit, bon, mais il y a une demande dans le quartier de la Guillotière d'interrompre les travaux pendant le Ramadan, et donc des revendications explicitement religieuses. Explicitement, on pourrait dire ethno-religieuses plus largement. Et le maire dit, effectivement, je vais interrompre les travaux à cause de ces revendications très particulières. Marion Maréchal s'oppose et elle réussit, elle s'empare du sujet dans l'espace public en y voyant le signe d'une forme d'islamisation, à tout le moins de la gestion de la vie publique, parce que si désormais il y a un certain islam, un certain islam, j'insiste, a la capacité d'imposer une trêve, une forme de pause des travaux pendant une période religieuse, c'est bien qu'il réussit à imposer sa loi à la vie nationale, à la République, à tout le moins dans ce contexte-là. Elle s'inquiète aussi, et elle n'est pas la seule, je tiens à le dire, de ce qu'on pourrait appeler une forme de multiculturalisme à la française qui s'impose, où désormais chaque communauté va être capable d'imposer, de réclamer son moment de trêve, sa fête, son exemption religieuse particulière. Elle ajoute, ce n'est pas un détail non plus, que le maire de Lyon est beaucoup moins accommodant lorsque vient le temps d'honorer les traditions catholiques dans la ville. Ça compte. Réponse du maire de Lyon, et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'à la rigueur, on pourrait dire que c'est une bataille politique comme une autre. Il dit... Pour cela, Marion Maréchal est pire que son grand-père. Elle est pire que son grand-père. On comprend que la notion de pire que le grand-père chez Jean-Marie Le Pen, ça fait référence à ses fameuses déclarations sur la Deuxième Guerre mondiale, point de détail, ainsi de suite. J'en comprends donc que pour le maire Doucet de Lyon, s'opposer au multiculturalisme et aux accommodements raisonnables réclamés par un certain islam ou tout le même par l'islamisme, c'est pire que les déclarations de Jean-Marie Le Pen sur la Deuxième Guerre mondiale. Je suis surpris par cette gradation du pire. Donc pour M. Doucet, il y a les propos de Jean-Marie Le Pen sur la Deuxième Guerre mondiale, mais encore pire, bien pire, il y a la contestation des privilèges religieux accordés à l'islam dans ce quartier. C'est assez original comme hiérarchisation du pire dans la définition de la République.
Pendant ce temps, la Fédération française de football refuse d'imposer une pause pour la rupture du jeûne du Ramadan. Est-ce que ces histoires se croisent ?
Elles se croisent et en même temps, elles révèlent, on y revient avec la conversation avec Marc, une faiblesse relative de la laïcité. Parce que là, la Fédération française de football dit non, non, on ne fera pas de pause spécifique religieuse, donc on maintient la distinction sport-religion. Mais quand on demande à la Fédération en question, est-ce que vous allez rappeler la directive, la circulaire, le texte qui marquait la distinction, on répond non, on ne veut pas faire de provocation non plus. Donc on mise sur le pouvoir d'inertie de cette distinction entre sport et religion, mais on considère que ce serait une provocation à l'endroit des joueurs musulmans dans les circonstances si on décidait de rappeler qu'il n'y aura pas de pause pour prendre de l'eau au moment de la rupture du jeûne dans le Ramadan. On comprend, c'est évidemment le contexte dont il est question. Et dans cette logique, ce n'est pas un détail, on apprend aussi que pour ce qui est du sport amateur, dans les faits, la règle ne s'applique plus. Officiellement, elle est là. Dans les faits, elle n'est plus respectée. J'en reviens au concept que j'ai proposé tantôt. Je crains que la France, dans les prochaines années, ne connaisse quelque chose comme une laïcité Potemkine.
En tout cas, on est d'accord.
La Fédération française de basket résiste, la Fédération française de foot résiste. C'est important de le souligner, c'est très intéressant. Merci à tous. Dans un instant, l'heure des Pro 2 avec Pascal Praud et Emmanuel Macron. À demain, non, à lundi.